des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Philippe Laburte-Tollerin.
Voici une petite chronique sur Albert Kahn ou la réalisation d'une utopie. Le créateur de l'aéropostale, la ligne aérienne intercontinentale que Mermoz devait illustrer à partir de 1930, c'est-à-dire Pierre-Georges Latécoère, ce créateur avait écrit vers 1925 « J'ai refait tous mes calculs. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. » À la suite de créations d'utopistes que j'ai déjà évoquées sur Canal Académie, comme Francis Aupied, rêvant de faire dialoguer sur pied de parfaite égalité culture noire et culture occidentale dans les années 1920, dont Luigi Ferlauto, qui a organisé au cœur de la Sicile son oasis de la ville ouverte, et à la suite de bien d'autres utopistes, comme les Saint-Simoniens, les communistes, les fondateurs d'ordres religieux, je voudrais vous proposer de nous pencher sur l'efficacité d'un autre utopiste, Albert Kahn. La difficulté majeure vient de sa modestie. Si vous ouvrez le Larousse en 5 volumes de 1991, vous trouvez à Kahn, entre parenthèses, Jardin Albert, l'article suivant, jardin créé à Boulogne-Billancourt à partir de 1893 par le banquier Albert Kahn. Ils réunissent de nombreuses essences rares et diverses, des exemples de paysages et de styles de jardin. Ils renferment la photothèque départementale des Hauts-de-Seine. Ils conservent 70 000 clichés autochromes du monde entier, etc. Mais on ne trouve rien dans cet article sur Albert Kahn en personne, même pas ses dates. Ces dates, c'est 1860-1940. Il n'est sorti de l'obscurité que voici une dizaine d'années, à l'occasion de la belle exposition de 1995-96 organisée au musée Albert Kahn et du superbe volume qui lui est consacré. Les maîtres d'œuvre de cette exposition et de cet ouvrage furent alors trois personnes: la conservatrice en chef, Mademoiselle Beausoleil, le professeur d'histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Pascal Horry, et l'historien actuel, directeur et conservateur du musée, Monsieur Gilles Beaupertier. Ils ont fait appel à de nombreux collaborateurs et spécialistes pour le volume de plus de 400 pages consacré, très bien illustré, consacré à Albert Kahn. Albert Kahn est né français en Alsace, à Marmoutier, en 1860, d'une famille de petits commerçants juifs patriotes. Il fréquente 3 ans le collège de Saverne jusqu'à l'âge de 16 ans, où il part pour Paris comme employé de banque, employé du Lorrain israélite Goudechaux, lequel a contribué d'ailleurs, bon patriote aussi, à payer les 5 milliards demandés par les vainqueurs allemands à la suite de la défaite de 70-71. Kahn n'est pas un homme très grand, et toute sa vie, lui qui constitue les archives de la planète, il refusa qu'on l'interviewe ou qu'on le photographie, interrompant les opérateurs par des gestes, et gardant toujours l'allure d'un humble employé retraité. Sa nièce rapporte que quand il achetait un chapeau neuf, il commençait par s'asseoir dessus pour qu'il ait l'air d'avoir été déjà utilisé. On ne capte sa silhouette donc que par surprise, à l'improviste, sauf de rares exceptions. Il lui arrive souvent d'inviter des personnalités à des réceptions dont il assume les frais, à des dîners, sans vouloir y paraître en personne. Pourtant, il ne doit pas déjà être trop mal payé dans cette banque, puisque, âgé de 19 ans, cherchant qui pourrait l'aider à préparer son baccalauréat, il recrute un jeune normalien, impécunieux, d'un an plus âgé que lui, qui se nomme Henri Bergson, et dont il restera toujours l'ami. En 1881, il devient bachelier-lettres, en 1884 bachelier-sciences et licencié en droit. À partir de 1881, donc à 21 ans, il obtient déjà des participations dans les affaires de la banque. Et en 1888, il a spéculé avec succès sur beaucoup de titres, en particulier sur les diamants de la De Beers et sur les mines d'or, et il est donc déjà riche. En 1892, il devient l'associé des Gutschow. En 1895, le voilà plus que millionnaire. En or, en francs or. Célibataire endurci, il donne alors libre cours à ses goûts pour la musique, pour l'art, pour la mer. Il prend des leçons de piano. Depuis 1888, il acquiert une loge d'abonnés à l'opéra où il utilisera à faire des invitations, des cadeaux. Il fait venir les concerts colonnes dans ses jardins en 1908 et il offrira un bronze de Rodin à l'Édouard Colonne, qui en est le créateur et le chef. Kahn est ravi lorsqu'il peut écouter un quatuor ou un pianiste célèbre chez lui, à Boulogne, en présence seulement de deux ou trois amis. Il a acheté cette propriété au bord de la Seine en 1893. Il commande plusieurs œuvres à Rodin. Et il emmène Rodin lui-même avec lui par l'Orient Express au Festival de Bayreuth en 1897. Il possède trois propriétés maritimes, l'une à Cap-Martin dans le Midi, l'autre en baie de Somme, la troisième en Cornouailles britannique. Et son chauffeur le conduit souvent pour passer une journée ou une nuit sur les côtes normandes. Cependant, dès 1887, il confie à Bergson qu'il est loin de réaliser son idéal. Cet idéal, sans doute s'agit-il de contribuer à l'harmonie entre tous les peuples de l'humanité, ce qui ne peut se faire que par communication et interconnaissance réciproque. Il s'agit d'une certaine unification du monde qui n'en gomme pas la diversité, mais qui s'établit par-delà toutes les barrières raciales, idéologiques ou religieuses. Il affiche chez lui, après la guerre, la Première Guerre mondiale, la photo du tombeau du rabbin Bloch qui se trouve à Saint-Dié, où est inscrite sa citation, la citation du rabbin à l'ordre de l'armée. Ce rabbin avait été pris par un prêtre catholique et il va donc, à la demande d'un blessé mortellement atteint, chercher une croix que lui réclame le blessé, et c'est en allant chercher cette croix, en la rapportant, qu'il est abattu à son tour. Son idéal commence à se concrétiser dès 1893, avec la création des jardins dans les 7 hectares qu'il a acquis. La nature, les fleurs, les arbres, l'art sont des manifestations de l'élan vital, aussi bien que la diversité des animaux, des insectes et la diversité des sociétés humaines. À propos des insectes, l'entomologiste Fabre est son auteur préféré parce que c'est un observateur direct exemplaire de la nature. Et Fabre répète plusieurs fois que c'est parce qu'il a observé directement les choses et non pas plongé son nez dans des livres qu'il a appris autant de choses sur les insectes. À partir de 1898, en même temps qu'Albert Kahn fonde une banque qui porte son nom et qu'il prend d'ailleurs en cachette une participation au capital d'une banque japonaise, il fonde sa première œuvre philanthropique, j'allais dire, des bourses autour du monde, dont il a parlé depuis quelque temps à ses amis Bergson et Rodin. Ces bourses sont décernées à de jeunes agrégés, de jeunes anciens hommes et agrégés, et souvent les trois quarts sont normaliens, capables de voyager 15 mois dans des conditions suffisantes de confort à travers le vaste monde. Expressément, Kahn leur conseille de voyager dans de bonnes conditions, c'est pas du tout le genre routard avec sac au dos. Mais il leur dit au contraire, voyager en première classe, aller dans de grands hôtels, cela vous dégourdira. On ouvre ainsi à ses enseignants le grand livre du monde. Et Albert Kahn espère qu'ils pourront constituer une élite établissant des liens à l'échelon planétaire avec une expérience de la vie qui sera précieuse pour leur enseignement. C'est ce que Bergson lui écrit en réponse à une lettre. Nous avons conservé heureusement les lettres que Bergson lui a adressées, mais pas les réponses d'Albert Kahn. Devant la mobilité des faits, on apprend à se défier de la simplicité des formules. Autrement dit, c'est l'éloge de l'expérience par opposition à la théorie. Ces bourses commencent dans les années 1903-1904. Dès 1905, ces bourses sont ouvertes aux jeunes femmes, également agrégées. Elles, on leur conseille de voyager par deux. Elles sont invitées à visiter les universités féminines d'Europe et des États-Unis. Autrement dit, on ne les envoie pas d'abord dans les pays à risque. Mais bientôt, elles seront les premières à réclamer le droit de faire le tour du monde, j'allais dire comme tout le monde. Il y aura 72 boursiers de ces bourses autour du monde en tout, 24 femmes et 48 hommes. Les 15 premiers fonderont en 1906 le cercle autour du monde, où Peggy manifestera une grande appréhension d'apparaître quand on l'y invite en 1910. Voilà sa lettre à Bergson du 3 juin 1910. « Je mets le plus grand prix à ce que le déjeuner de Boulogne, écrit Peggy, soit honoré de votre présence et en réalité de votre amicale présence. C'est la première fois que je vais à Boulogne et je suis au fond très timide. J'ai peur de ne pas faire sur M. Kahn une impression assez pleine. Je serai tout réconforté au contraire si je me sens appuyé par votre autorité. » Et il est de fait qu'entre 1906 et 1930, quand Kahn malheureusement sera ruiné, le monde entier paraît se donner rendez-vous dans cette propriété de Boulogne. Le nom de Kahn, malgré son désir de se maintenir dans l'ombre, est connu, respecté. Être reçu chez lui, c'est considéré comme un honneur qui n'est pas quelquefois sans provoquer des jalousies. Des princes, des rois, des ministres, aussi bien français qu'étrangers, les représentants des différentes tendances du monde politique, économique, social et religieux, les universitaires les plus connus, des artistes vont ainsi se presser à Boulogne. Mais tous, je l'ai dit, ne rencontreront pas obligatoirement Albert Kahn, puisque s'il était fier quand il y avait des personnages illustres, il se dérangeait rarement pour les voir et se tenait à l'écart pour ne pas paraître. Ce n'est pas pour lui, pensait-il en effet, que se déplacent ces personnalités. C'est pour qu'elles se rencontrent, c'est pour qu'elles soient en présence des dossiers, en particulier des documents photographiques, cinématographiques qu'il a fait constituer. La sélection des boursiers est effectuée par un comité universitaire où Albert Kahn lui-même refuse de siéger. Il y aura une seule intervention de sa part, ce sera en faveur d'un peintre dont je vais reparler tout à l'heure. La sélection des boursiers est effectuée donc par les universitaires et des bourses sont mises aussi à la disposition des universités du Japon et de l'Allemagne, avec le projet d'en étendre la possibilité à 8 autres nations, la Belgique, la Russie, donc l'Empire de Russie, l'Autriche, qui est l'Autriche-Hongrie à ce moment-là, avant 14, l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et même l'Inde. À l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1900, Kahn a aussi participé à la création de l'Institut général psychologique, et je pense que Freud devait en faire partie puisqu'il était si lié avec Charcot. Ce serait à vérifier, évidemment. En 1903, les frères Lumière ont fait avancer les travaux sur la photographie en couleur et des plaques autochromes sont sur le marché en 1907. Kahn, alors, entreprend de faire un tour du monde dans le sens est-ouest, c'est-à-dire en commençant par aller en Amérique, du 13 novembre 1908 au 11 mars 1909. Après avoir attendu que son jeune chauffeur ait fini son service militaire et l'avoir transformé par un stage en photographe. Il s'arrête pour un long séjour, plus de 3 semaines, au Japon, où il est reçu princièrement. L'empereur du Japon lui fait parvenir des décorations, des cadeaux. Et il s'arrête à peu près de temps en Chine, où ce n'était pas prévu. Il renonce à rentrer en Transsibérien. Au retour, par l'Indochine, donc par bateau, par l'Indochine, l'Inde, Suez, l'Italie. Une fois rentré en France, il a l'idée de demander à des voyageurs photographes professionnels de constituer en 1911 les archives de la planète. Pour ces archives de la planète, il cherche auprès du géographe de Margerie un jeune universitaire dynamique et c'est le géographe Jean Brune qui va être, à partir de 1912, le directeur de ces archives. Pour Jean Brune, est créée la même année, en 1912, une chaire de géographie humaine au Collège de France qui sera également subventionnée par Albert Kahn. Et j'ai parlé du peintre Mathurin Méheux, qui sera le seul non-universitaire à obtenir une bourse en 1913. En 1914, notre banquier invite et reçoit somptueusement chez lui à Cap-Martin l'ambassadeur allemand Wilhelm de Schoen et sa famille. Et là, il consent à être pris en photographie avec eux. C'est une exception. En tant qu'Alsacien, il parle couramment l'allemand. Et par ailleurs, il a très bien appris l'anglais. Mais cette réception n'empêche pas la guerre d'éclater. C'est le contraire de l'entente planétaire espérée par Kahn, évidemment. Alors là, il va y avoir pour lui un grand problème, c'est de tenir compte de la guerre. Et il va donc acheter à Maheu, ses croquis de guerre, ses croquis de tranchées, de façon à pouvoir témoigner de l'horreur de la guerre qui fait partie de la vie sociale. Mais ensuite, il va se lancer dans une certaine action politique pour, à la fin de la guerre, restaurer une paix plus complète après cette crise qui lui a été extrêmement pénible. Donc, il avait toujours manifesté le plus grand intérêt pour l'actualité, lisant chaque matin les journaux, tentant de saisir les échos de la rumeur du monde et voir s'il surgissait les paroles annonciatrices du but ultime de l'humanité, c'est-à-dire l'épanouissement de l'homme pour lui. Mais il ne se contentait pas de cette contemplation, comme j'ai dit, il ne s'est pas contenté d'avoir les bourses autour du monde, de créer les archives de la planète. Il essaye d'avoir une influence politique, de participer à la gestion de la cité, parce qu'il en sent le devoir moral par sa richesse et par aussi l'amitié de Bergson et par sa clairvoyance. L'œuvre politique d'Albert Kahn s'adresse aux élites de la société, c'est-à-dire aux citoyens, à ceux qui sont, j'allais dire, comme selon une conception héritée de la démocratie athénienne, ceux qui sont égaux entre eux et qui ont la responsabilité de guider le peuple vers son épanouissement total. Il leur montre le sens à donner à leurs efforts. Il les incite à partager sa clairvoyance dans les décisions qu'ils doivent prendre. Et par conséquent, il crée des publications. La première, c'est le Comité national d'études sociales et politiques avec des réunions hebdomadaires qui vont durer pendant 15 ans à la Cour de cassation de Paris. Un orateur choisi parmi ses connaissances et pour sa science particulière d'un pays ou d'un sujet économique, politique, sociologique, technique, exposait son interprétation des faits, puis les invités approfondissaient le sujet par des questions posées à l'orateur et procédaient à un débat. Les portraits présentés dans cette exposition des fidèles participants à cette réunion témoignaient de la notoriété, de la compétence des invités. Je parle de l'exposition Albert Kahn de 1996. Donc, les textes complets des conférences et des débats étaient publiés dans le bulletin de ce Comité national d'études sociales et politiques qui était envoyé aux élites. Dans le second temps de son œuvre, Albert Kahn a tenté de démontrer à ses élites que le but qu'il avait adopté lui-même n'était pas utopique. Partout dans le monde, les sociétés confusément avançaient vers leur épanouissement et il crée donc une revue, l'Orientation Nouvelle, imprimée aux frais de son auteur, destinée aux membres du comité dont j'ai déjà parlé, comprenant des articles de journaux sélectionnés selon trois axes de réflexion principaux. Premièrement, la rupture des équilibres anciens, marquée par des grèves, des crises politiques, des guerres et des diverses manifestations. La naissance d'une conscience plus grande, petit a de la part du peuple, parce qu'il y a toutes sortes d'organisations nouvelles des intérêts, de vie associative. La vie associative, il a prévu qu'elle allait se développer comme elle le fait et effectivement de nos jours. Et puis, il y a une conscience plus grande aussi de la part des élites, un souci d'information auquel justement répondent ces réunions et cette revue. Et enfin, une conscience plus grande de la part des États, parce que on essaye de trouver à tâtons diverses formes d'organisation. C'est à l'époque pas seulement les démocraties, mais évidemment aussi les fascismes, les différents régimes qui s'affichent socialistes, y compris ceux qui pratiquent la dictature du prolétariat. Enfin, il pense qu'il faut manifester davantage de solidarité dans des conférences diplomatiques, mais évidemment aussi dans l'Organisation internationale des États, et c'est ainsi qu'il salue la naissance de la Société des Nations, de la SDN, qui devient l'un de ses principaux sujets d'intérêt. Mais il pense que cela ne doit pas freiner non plus les manifestations d'intérêt individuel en harmonie avec l'esprit collectif. Donc, on voit comment sa vie se dévoue à établir la plus grande fraternité, la plus grande harmonie possible entre les gens. Dans ce domaine, je dois dire qu'il fait une grande part à la sensibilité et à l'art, comme je l'ai dit. Il est marqué profondément par l'art de Wagner, par la statuaire de Rodin, auquel il achète des œuvres comme « La main de Dieu »,« L'illusion »,« L'éternel printemps ». Et j'ai dit pourquoi, n'est-ce pas, il avait voulu aussi favoriser comme boursier un peintre, peut-être qui n'était pas de très grand talent, mais qui avait voulu absolument faire des représentations de fleurs et de formes animales maritimes. C'était non pas sans rapport avec ce que j'ai déjà dit de son admiration pour Fabre. Et il semble qu'il y ait une grande parenté d'esprit entre les écrits de Fabre et l'œuvre d'Albert Kahn. Par exemple, on trouve dans Fabre écrit ce que je l'ai dit, que la science des livres est une médiocre ressource devant les problèmes de la vie et que à la riche bibliothèque est préférable l'assidu colloque avec les faits, le dialogue avec les expériences. Alors Fabre pense, écrit que c'est par une refonte générale de l'organisme actuel que s'obtiendront les matériaux de la société future, à l'image de ce que font les insectes qui passent par des mutations de chrysalides diverses dans leur existence. Donc c'est dire qu'il y a chez Albert Kahn, un peu comme chez Bergson d'ailleurs, l'idée d'une évolution créatrice, mais une idée qui n'exclut pas des formes inattendues et révolutionnaires d'évolution. Alors, il note au sommaire de son bulletin du 2 août 1920 que les formules anciennes ne sont plus, les formules nouvelles ne sont pas encore. Et donc, il conçoit qu'il y ait un certain désarroi au moment de la rupture de l'équilibre ancien pour prendre des orientations nouvelles. Il y a donc communion de pensée, j'allais dire paradoxale, entre Fabre et Bergson et Albert Kahn d'un côté, et par ailleurs avec les artistes qu'il estime les plus proches du mouvement et de la vie. Pour lui, c'est Wagner en musique et c'est Rodin en sculpture. Alors, c'est de cette façon-là que son centre de Boulogne est destiné à interpeller tous les visiteurs. Et cela dure, je disais, jusqu'en 1930, car en 1930, il y a la crise de 1929 qui rejaillit sur les opérations bancaires et financières d'Albert Kahn et on voit arriver la fin de sa fortune. On a des renseignements précis grâce à un rapport précieux qui date de 1932. Ce rapport concerne les années depuis 1926. Il analyse la composition des éléments constitutifs de la fortune d'Albert Kahn, sa banque, ses divers biens immobiliers, son portefeuille de titres. Or, l'activité principale de la banque consistait dans l'achat d'actions, d'obligations, mais aussi dans la part de nombreuses sociétés, surtout dans les investissements opérant dans le domaine colonial français, Congo, Niger, Afrique équatoriale, Maroc, mais également dans des sociétés foncières, d'autres banques, des hôtels, des sociétés de construction mécanique, etc. Et la composition du portefeuille personnel d'Albert Kahn est la même que celle de sa banque. Quant au domaine immobilier, il comprend, outre les célèbres jardins immeubles de Boulogne, une grande propriété au Cap-Martin, j'en ai parlé, une autre en Angleterre à Carlis Bay, et vraisemblablement des propriétés sur la Méditerranée. Alors, jusqu'en 1930, son activité bancaire avait été bénéficiaire grâce à l'accumulation des plus-values des titres. Et les bénéfices étaient réinvestis dans l'achat de nouveaux titres, mais il n'avait pas diversifié suffisamment ses placements. Avec l'écroulement du marché mondial, en particulier dans le domaine des matières premières, apparaît un déficit à partir de 1930 et surtout 1931. C'est une année où 118 banques françaises firent faillite. Le gouvernement français pratiquait alors une politique protectionniste en privilégiant les productions coloniales pour assurer l'autarcie de la France. Mais le marché colonial fut rapidement touché par la crise internationale et les populations locales étaient trop pauvres pour aider l'économie française par l'achat de biens de consommation. Donc, par la crise de cette économie coloniale, des matières premières, des banques, Albert Kahn était touché dans ces trois secteurs d'investissement et il réagit d'une façon maladroite en hypothéquant ses biens immobiliers qui étaient estimés en 1931 à 111 millions alors que son déficit bancaire n'était que 22 millions et en empruntant auprès d'autres établissements au lieu de vendre les titres avant leur effondrement total. Cette réaction traduit un optimisme, une confiance qui était alors celle des dirigeants politiques français. Les années suivantes, donc, ce fut pour Albert Kahn, comme pour beaucoup d'autres, une course incessante et inutile aux liquidités, une spirale dans l'endettement qui s'acheva par des procès, des saisies de ses biens et la vente finale de tout ce qu'il avait, alors qu'il était octogénaire, c'est pourquoi il mourut dans la gêne en 1940. Pour conclure, il faut bien dire que Albert Kahn a quand même finalement constitué des archives de la planète qui rassemblent 70 000 clichés et 180 km de films. 180 000 mètres de films. Bon, malheureusement, les films, plusieurs événements ont gâché son entreprise sous ce rapport. Le premier, c'est qu'il avait fait beaucoup de vues au stéréoscope qui ont été gâchées et un certain nombre de produits ont été perdus parce que pratiquement la propriété est restée à l'abandon pendant à peu près 40 ans, n'est-ce pas, de 1940 à 1980, même si les Hauts-de-Seine l'avaient racheté, mais ils n'avaient pas mis de personnel en service pour restaurer les biens qui étaient là. Les films en particulier étaient profondément inflammables. C'est le genre de film sur celluloïd qui avait provoqué l'incendie du bazar de la Charité, je crois, en 1912. Et il fallait absolument, parce qu'ils se détérioraient d'eux-mêmes, pouvoir les rattraper sur d'autres supports, ce qui a été fait donc surtout à partir de 1970-80. D'autre part, beaucoup de mètres ou de kilomètres de films ont été perdus. Et dans la restauration, on n'a pu en sauver que des parties. Quant aux autochromes, alors ils ont quand même été conservés, publiés, mais c'est bien simple, il y avait une personne qui était chargée de la garde de la propriété après que les Hauts-de-Seine l'aient racheté dans les années 1940, et il y en a maintenant près d'une centaine qui sont employés dans l'actuel musée Albert Kahn. Naturellement, une très belle collection d'ouvrages a été publiée à partir de ces diapositives, à partir des expositions qui ont fait connaître peu à peu les archives de la planète. Et je ne saurais trop encourager les auditeurs à aller voir, s'ils en ont la possibilité, le musée Albert Kahn dans son état actuel, où sont bien entretenus les jardins qu'Albert Kahn avait constitué, qui sont eux aussi destinés à représenter une sorte de miniature de la planète, n'est-ce pas ? Il y a la forêt vosgienne, la forêt bleue, le jardin japonais, et puis le jardin à la française, n'est-ce pas ? Avec des roseraies, et ça constitue une sorte de dialogue. Albert Kahn était très attiré par le Japon. Il semble qu'il y soit allé d'ailleurs avant de faire son tour du monde. Et toute la symbolique, la mystique de l'art japonais ont été pénétrées par lui et appréciées. Voilà, je crois que j'ai à peu près rendu hommage à ce grand homme méconnu, qui n'a pas dit grand-chose de lui-même et qui s'est englouti dans son œuvre qui a été reprise depuis.